Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Les chefs de la diplomatie russe et ukrainienne ont échoué à s'accorder en Turquie sur un cessez-le-feu en Ukraine. C'était leur première rencontre ce jeudi depuis le début de l'invasion russe. L'indignation internationale après le bombardement d'un hôpital pour enfants à Mariupol en Ukraine. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne dénonce un crime de guerre odieux. L'ouverture ce jeudi soir du sommet européen de Versailles, une réunion internationale avec pour sujet majeur la guerre menée par la Russie en Ukraine. Il ne faut pas sous-estimer la menace nucléaire durant cette guerre, c'est ce que souligne Jean-Marie Collin, expert en désarmement nucléaire et porte-parole de ICANN France. Il sera l'un de nos invités. Des responsables religieux font entendre leur voix face à cette guerre, des appels à la solidarité, notamment de personnalités liées au culte musulman. Nous écouterons le président du Rassemblement des musulmans de France, Anouar Bibesh. Le ministre algérien des Transports, Aïssa Bekaï, a été limogé pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions. Le procès de l'assassinat du père Jacques Hamel en juillet 2016, trois complices des deux terroristes ont été condamnés à des peines allant de 8 à 13 ans de réclusion criminelle. Le président ukrainien dénonce un crime de guerre après le bombardement hier d'un hôpital pédiatrique dans le port stratégique de Mariupol, dans le sud de l'Ukraine. Le raid a fait au moins 3 morts, dont une petite fille, et 17 blessés. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, a lui aussi qualifié de crime de guerre odieux ce bombardement russe. Sur le front diplomatique, les discussions ce jeudi en Turquie entre les ministres russes et ukrainiens des affaires étrangères ont abouti à un échec. Les deux hommes ont campé sur leur position. C'était leur premier face-à-face depuis le début de l'offensive russe en Ukraine il y a 2 semaines. Nous avons évoqué un cessez-le-feu, mais aucun progrès n'a été accompli en ce sens, selon les mots du chef de la diplomatie ukrainienne. L'Ukraine ne s'est pas rendue, ne se rend pas et ne se rendra pas, a-t-il affirmé. La Russie s'est dite disposée à poursuivre les négociations avec l'Ukraine dans le cadre du format existant au Bélarus, a indiqué le ministre russe des Affaires étrangères après cette première rencontre avec son homologue ukrainien. Les deux ministres avaient été rejoints par le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique en vue de réunions pour progresser sur la question de la sûreté et de la sécurité des installations nucléaires ukrainiennes. Il ne faut pas sous-estimer la menace nucléaire, c'est ce que souligne Jean-Marie Collin, expert en désarmement nucléaire et porte-parole de ICANN France, la branche française de la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. Il revient sur les menaces du président russe à utiliser l'arme nucléaire face à la réaction de la communauté internationale dans le cadre de la guerre en Ukraine. Jean-Marie Collin.
C'est une menace qu'il a indiquée il y a quelques jours à différentes reprises, et qui est véritablement sur la table et dont on ne doit absolument pas sous-estimer la possibilité qu'elle se réalise. Aujourd'hui, on s'aperçoit en tout cas que du côté de l'OTAN, de la France notamment, il y a une volonté de tempérer les mots, et on remarque notamment, par exemple, que le ministre Le Drian n'utilise plus l'expression possédant aussi la dissuasion nucléaire. Donc il y a cette volonté-là. Par exemple, aussi les États-Unis ont décidé de repousser un tir d'exercice d'un missile balistique la semaine dernière. Il faut noter que ce n'a pas été le cas de la France. La France a réalisé dans la nuit du 3 au 4 mars une opération aérienne d'exercice qu'elle réalise 4 fois par an, qui s'appelle une opération poker, qu'elle a maintenue par contre. Donc on est quand même sur sur une période extrêmement dangereuse, extrêmement tendue. Mais en tout cas, dans les mots, on sent de la part du côté des Occidentaux une volonté de ne pas mettre plus d'huile sur le feu.
Une volonté d'apaisement après que, vous l'avez rappelé, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères a souligné que l'OTAN était aussi une alliance nucléaire. C'était le 24 février dernier.
Oui, c'était au lendemain en fait de la mise en état d'alerte au combat des forces nucléaires russes demandée par le président Poutine à son ministre de la Défense, M. Sergueï Shoigu. Et rapidement, le ministre Le Drian a indiqué effectivement cette phrase. Qui sont extrêmement dangereuses, puisque même si l'idée de la dissuasion est de montrer ses muscles, à un moment donné, lorsque les muscles ont été montrés, on peut aussi s'attendre à ce qu'une personne fasse usage de ses muscles. Et c'est là toute la dangerosité. Personne ne sachant exactement ce que souhaite, ce que peut réaliser le président Poutine, encore une fois, toutes les options étant sur la table, il n'est pas nécessaire de rappeler également que la France ou que l'OTAN possède des armes nucléaires, puisqu'il le sait aussi très clairement.
Vous rappelez qu'il s'agit de dissuasion, mais vous évoquez un équilibre de la terreur.
Oui, c'est ça. Nous sommes de toute façon, depuis 1945, dans l'équilibre de la terreur. Depuis la course aux arsenaux nucléaires qui a débuté à partir de cette période-là et les années qui ont suivi, où les États ont basé leur politique de défense sur une arme de destruction massive, nous sommes rentrés dans une ère de la politique de la terreur. Beaucoup de personnes semblent retrouver ou s'interroger à nouveau sur la peur des armes nucléaires, mais les organisations internationales comme notre campagne ICAN, comme le CICR, comme les Croix-Rouges, depuis, en tout cas pour du CICR et la Croix-Rouge, depuis 1945, alertent sur le danger des armes nucléaires et sur la réalité, la possibilité d'usage de ces armes nucléaires de façon volontaire, involontaire ou malveillante. Donc, cet équilibre de la terreur, comme son nom l'indique, ce n'est qu'un équilibre. Si l'on devait tomber de cet équilibre, on se ferait extrêmement mal, puisque tout usage d'armes nucléaires, non seulement viendrait briser un tabou qui n'a pas été réalisé depuis 1945, mais engendrerait des conséquences humanitaires mondiales.
Et il existe aujourd'hui des traités internationaux pour mettre fin à cette menace ?
Oui, bien sûr, il existe notamment le traité de non-prolifération nucléaire, qui est la pierre angulaire de l'ensemble des régimes, qui a été complété ces dernières années par le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, qui est entré en vigueur le 22 janvier 2021, à laquelle d'ailleurs les États-Unis, la Russie, les Français, les Britanniques et les Chinois non seulement ne sont pas signataires, donc membres, mais en plus, on est ensemble, et c'est là l'absurdité aujourd'hui que l'on voit et que l'on paye, ensemble, on réalisait différents types de communications pour éviter que ce traité ne rentre en vigueur. Ce traité est véritablement un moyen qui nous permet de faire avancer le désarmement nucléaire, qui d'ores et déjà regroupe un peu plus de 59 États et 86 États signataires. Donc il y a des moyens, tout est sur la table pour pouvoir avancer véritablement vers une sécurité internationale différente et qui ne repose plus sur des armes de destruction massive. Et
aujourd'hui, il existe une disproportion impressionnante entre les sanctions économiques à l'encontre de la Russie et la menace nucléaire qui est brandie.
Les sanctions, en tout cas, ont pour objectif véritablement d'être un rouleau compresseur immédiat et pas comme ça a pu être réalisé sur d'autres types d'acteurs, que ce soit notamment par exemple l'Iran ou Cuba, ou encore la Corée du Nord, où ces sanctions se sont étalées dans le temps de manière de plus en plus importante. Ici, elles sont véritablement tout de suite un effet de masse. L'interrogation que l'on peut avoir vis-à-vis du comportement du président Poutine, c'est que est-ce que cet effet compresseur ne va pas acculer le président Poutine dans une sorte d'impasse et d'obligation, non seulement de ne plus faire que de l'agitation, mais véritablement de réaliser, d'utiliser d'une manière ou d'une autre une arme nucléaire. Donc ça, c'est un jeu aujourd'hui dangereux qui est mené par le président Poutine, qui nous menace bien évidemment. Et il faut espérer que les acteurs occidentaux ont proposé au président Poutine une vraie porte de sortie, potentiellement par exemple un début de retrait de certains types de sanctions, à condition bien sûr qu'en face il y ait des choses qui soient réalisées, notamment un cessez-le-feu, ce qui semble prioritaire pour les populations civiles, et un début de retrait des troupes de certaines zones.
Et estimez-vous qu'il existe aujourd'hui une prise de conscience de la communauté internationale suffisamment importante face à cette menace et suffisamment claire ?
En tout cas, aujourd'hui, on sent de partout que la menace des armes nucléaires revient, fait peur à nouveau. On sent même que certaines personnalités ne souhaitent pas en parler pour ne pas créer un mouvement que l'on pourrait qualifier de panique, mais je pense que c'est simplement un droit à l'information. On a le droit de savoir qu'effectivement, des États possèdent des armes nucléaires et que des États sont susceptibles d'utiliser leurs arsenaux nucléaires et que par conséquent, si on ne veut pas que ces États utilisent leurs arsenaux nucléaires avec les conséquences nucléaires mondiales qu'il peut y avoir, eh bien la France, pour prendre le cas de la France, doit véritablement agir, aurait dû agir par le passé, notamment en participant à ces fameux traités et à tous les moyens d'agir dans le futur. Et je pense que le meilleur signe serait par exemple que l'État français indique sa participation à minima comme État observateur, c'est-à-dire simplement observer et écouter, la prochaine réunion du traité sur l'interdiction des armes nucléaires qui se déroulera au mois de juillet prochain. Et elle pourra encourager aussi ses acteurs britanniques et européens à y participer, sachant que l'Allemagne, par exemple, sera présente.
Jean-Marie Collin, expert en désarmement nucléaire et porte-parole de ICAN France, la branche française de la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. La France accueille ce jeudi soir et ce vendredi les chefs d'État et de gouvernement réunis autour du président du Conseil européen, Charles Michel. Un sommet informel à Versailles sur l'énergie qui ne suivra pas le programme initial au menu des discussions. La définition d'un nouveau plan commun pour répondre aux conséquences de l'invasion russe en Ukraine. Des responsables religieux font entendre leur voix face à la guerre en Ukraine. De nombreux appels à la solidarité, notamment de personnalités liées au culte musulman, le président du Rassemblement des musulmans de France, Anouar Gbibesh.
C'est une véritable tragédie des temps modernes que nous sommes en train de vivre. On ne pensait plus revivre ces moments-là ou revoir ces images-là. Avec plus de 2 millions de réfugiés ukrainiens qui sont déjà partis dans différents pays d'Europe, des milliers de morts et de blessés, des populations hagards qui essayent de réagir dans la limite des possibilités, dans la précarité la plus totale. Bien sûr, l'ensemble des confessions, des représentants des différentes confessions se sont mobilisés. Le Rassemblement des musulmans de France est associé au Conseil des leaders musulmans en Europe, dont il fait partie. Et dès le 24 février, nous avons publié une tribune commune pour l'ensemble des représentants musulmans des pays d'Europe pour une prière pour l'Ukraine. Cette prière a été lue avec d'autres représentants des autres religions, que ce soit catholiques, orthodoxes, protestantes ou juives. Et le vendredi 25 février, dans beaucoup de mosquées à travers toute l'Europe, des appels à la solidarité avec le peuple ukrainien et les populations ukrainiennes a été fait. Et je pense qu'au niveau des musulmans de France, les appels se multiplient pour qu'il y ait un élan de solidarité et d'humanité qui se manifeste, sachant que les efforts diplomatiques doivent être redoublés pour arrêter au plus tôt cette tragédie et cesser cet exode des populations civiles qui n'ont rien demandé et qui se retrouvent attaquées dans leur propre domicile, qui sont brûlées, bombardées et jetées sur les rues et dans les trains. Et ceci est vraiment insupportable au XXIe siècle.
Et cette tragédie renforce le dialogue et les actions interreligieuses?
Oui, il y a une solidarité spontanée qui s'est faite et le Conseil des leaders musulmans en Europe, justement, possède un certain nombre de relais dans les différents pays en Europe et également a des relations privilégiées avec les représentants des autres cultes. Donc cette solidarité interreligieuse et interconfessionnelle s'est faite d'une manière spontanée, naturelle et sincère, et aujourd'hui tous les efforts se conjuguent pour pouvoir, limiter et répondre aux souffrances des Ukrainiens et des Ukrainiennes qui souffrent de la guerre par ces temps difficiles.
Et cette mobilisation, comment doit-elle se traduire?
Je pense qu'il y a déjà des appels qui doivent être faits dans les prêches du vendredi, donc ça a déjà été fait vendredi dernier, mais je pense que l'ensemble des mosquées de France sont appelées à le refaire à l'occasion de la prière du vendredi prochain, pour que les fidèles, que les musulmans se mobilisent pour apporter leur contribution à l'effort de l'humanité tout entière concernant ce qui se passe en Ukraine. Au-delà de ça, je pense qu'il y a un certain nombre d'organisations humanitaires, de solidarité qui agissent sur le terrain. Et il peut y avoir un certain nombre de renforts ou d'aides qui peuvent être acheminées aux populations civiles à travers ces organisations. Et nous appelons vraiment l'ensemble des musulmans de France à porter leur pierre à l'édifice dans cet élan de solidarité et d'humanité.
C'est un élan de solidarité qui a pu être vu d'ailleurs, notamment pendant la guerre en Syrie qui est toujours en cours.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il est important de ne pas faire de distinction entre les différents conflits ou entre les victimes ou entre les réfugiés, parce qu'il y a eu également malheureusement des polémiques là-dessus où les réfugiés d'Ukraine étaient sélectionnés entre guillemets en fonction de la couleur de leur peau ou de leur origine. Je pense qu'il y a des tragédies qui se jouent un peu partout, en Syrie, en Irak, aujourd'hui en Ukraine. Et je pense que l'élan de solidarité doit être le même. Et ce sont les sentiments d'humanité, de fraternité qui doivent prévaloir. au-delà des convictions et des confessions des uns et des autres.
Le président du Rassemblement des musulmans de France, Anouar Gbibesh, le ministre algérien des Transports, Aïssa Bekaï, a été limogé pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions. Une annonce du président algérien, il ne donne pas plus de précisions. Aïssa Bekaï était ministre des Transports depuis juillet 2021. Il avait occupé auparavant le poste de ministre délégué chargé du commerce extérieur dans le premier gouvernement de la présidence Tebboune. Le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l'étranger a réaffirmé le soutien constant de la Tunisie à la cause palestinienne. Il a notamment condamné les violations perpétrées par les autorités israéliennes contre les Palestiniens. C'était en marge de sa participation à la troisième réunion de la commission interministérielle arabe. Le procès de l'assassinat du père Jacques Hamel en juillet 2016. Trois complices des deux terroristes ont été condamnés à des peines allant de 8 à 13 ans de réclusion criminelle. Ils étaient jugés par la cour d'assises spéciale de Paris pour association de malfaiteurs terroristes. Les auteurs de l'assassinat du père Jacques Hamel étant décédés, ce procès devait permettre de quantifier le degré de culpabilité des trois accusés présents dans l'organisation de cette attaque. Et si on en parlait, ce soir à 19h et 23h, le thème de cette émission, grand âge, prise en charge de la perte d'autonomie, les professionnels interpellent les candidats, les invités d'Alexis Bachelet, Marie-Hélène Tillon, présidente de la Fédération de l'Union Nationale d'Aide, de Soins et de Services à Domicile, et Luc Broussy, président de la Silver Economy, fondateur du think tank Matière Grise. Fin de cette édition. Vous êtes bien sûr Radio Orient. Un très grand merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.